Vous écoutez
RMC.
RMC Mobilisation Générale, plus fort ensemble.
Guillaume Laniel, Christophe Cessieux.
12h06, mobilisation générale, donc jusqu'à 13h, c'est la dernière heure de cette émission éphémère qui aura permis, on l'espère, de répondre à vos multiples interrogations concernant cette crise à partir de la semaine prochaine. Retour donc à une grille de programmes plus habituelle. Les grandes gueules du sport reprendront leur place entre 11h et 13h. Et juste avant, une heure de jeu de quiz avec notre Dream Team, mais aussi nos reporters et vous, fidèles auditeurs, vous aurez l'occasion de venir vous inscrire pour participer à ce jeu. Vous serez associé à un consultant ou à un journaliste. Et parmi ceux-là, évidemment, il y aura, on l'espère, Maryse Evangépé, qui est déjà une grande spécialiste des jeux sur RMC, la reine du Kikadi, par exemple. Ça va, Maryse?
Oui, et toi? Je voulais juste vous féliciter pour votre émission. C'était une pastille fraîche et importante et intelligente et on est ravis de prendre la suite.
Eh ben merci Marie, c'est des compliments qui me vont droit au cœur. Et à Guillaume également, je l'imagine. Denis Charvet, oui, lui se prépare avec beaucoup d'assiduité, paraît-il, justement à répondre aux questions du RMC Sport Game. Jusque-là, le RMC Sport Game pour Denis, c'était les compétitions de ski où je le battais régulièrement. Mais bon,
c'est un peu différent là, hein, Denis.
On va pas rappeler la grosse gamelle que tu avais prise, quand même, hein, parce que tu t'en souviens, j'espère.
Oui, effectivement. Ouais,
ouais, on avait eu peur d'ailleurs.
On avait eu très très peur, surtout pour mon partenaire de course que j'avais envoyé bouler dans la neige. On le salue. J'espère qu'il va mieux. Depuis, notre coach est également avec nous, roi du vélo d'appartement. Salut Roland.
Salut les amis, salut à tous.
Salut Roland.
On parlait il y a quelques instants, je ne sais pas si vous l'avez entendu, des Français qui ont pris quelques kilos pendant la crise. Est-ce que vous êtes concernés tous les trois? Racontez-nous un peu, parce qu'on ne vous a pas vu depuis des semaines. On va vous retrouver la semaine prochaine. Denis, par exemple, est-ce que tu as gardé ta ligne de jeune homme?
Adrien Gouin s'est amusé vendredi ou jeudi, je ne sais pas, au Moscato Show. Maryse était là. Combien on avait pris de
combien on avait chacun. Pris chacun, ouais.
Et alors, Maryse disait plus d'eux, elle était très honnête. Moi, j'ai
mais tu permets que je dise moi-même?
Et non, parce que ça peut passer à plus 3 aujourd'hui. Non. Ça, c'était plus 2, c'était
non,
jeudi. Moi, pour répondre à ta question, Christophe, non, j'ai fait régulièrement du sport parce que d'abord, ça permet de tuer un peu le temps et on s'aperçoit que ça fait du bien tout simplement à la tête, au corps évidemment, on le sait, mais surtout à la tête. Non, j'ai dû prendre un kilo ou deux, allez, ouais, j'ai pas
mangé. T'as vu quand même Christophe comment il est? Il dit combien j'ai pris de kilos, mais il répond pas pour lui.
Combien on
gagne?
Combien
on gagne? C'est hallucinant.
Je vous assure, un ou deux kilos.
Alors moi j'ai pris 2 kilos, ça c'est certain, mais en fait ce sont des très bons kilos puisque j'ai perdu une taille de pantalon. C'est-à-dire qu'en fait j'ai fait.
Ah ouais,
tous les jours. Ouais.
Que voilà, des muscles.
Exactement.
Bon,
j'ai jamais autant fait de sport.
Roland.
L'objectif avant le virus, c'était de perdre quelques kilos. Donc là, j'y suis pas arrivé. J'ai essayé de ne pas grossir. Donc je pense qu'à un kilo près, j'ai dû y arriver.
Eh ben voilà.
C'est bien. Bravo.
Voilà qui est parfait. Très bien. Ils sont donc venus pour débattre et non pas pour parler de leurs kilos. le casting est donc là. Reste à dévoiler le programme, Guillaume. Les débats qui vont nous animer jusqu'à 13h.
Oui, on va parler cyclisme avec nos grandes gueules du sport parce qu'on s'apprête, si l'impact du virus continue à s'atténuer, à vivre une deuxième partie d'année très chargée. Est-ce qu'il est raisonnable ce calendrier présenté cette semaine par l'UCI? On va se poser la question avec Emmanuel Hubert, patron de l'équipe Arkéa Samsic. À 12h25, c'est le championnat de foot qui a résisté à cette tornade qui a été le Covid-19 dans le monde, le championnat biélorusse. Et oui, championnat biélorusse ne s'est pas arrêté alors que nos footballeurs français étaient confinés chez eux. Est-ce que ça a fait qu'on a dû changer nos habitudes de téléspectateurs? On va le découvrir. Et puis dans le dernier quart d'heure de cette émission, nous nous intéressons ce matin à nos sportifs privés d'entraînement pendant le confinement. La remise en forme risque de prendre beaucoup de temps. On en parlera avec Emmanuel Lacroix, préparateur physique du côté de l'ASVEL en basket.
Voilà un programme plus que copieux qui sera rendu possible que si... alors là, excusez-moi, non, j'étais déjà dans le débat d'après.
On est sur le vélo, la bicyclette.
On va revenir au vélo, évidemment. Dès demain, donc, nos coureurs cyclistes vont pouvoir enfin quitter leur home trainer et enfourcher donc un vrai vélo, une belle bicyclette qui va leur permettre de voir du pays, surtout de s'entraîner en vue de la reprise de la saison, car si d'autres disciplines ont renoncé à poursuivre leur saison, ce n'est pas le cas des as du peloton. C'est même un programme copieux que leur ont mitonné les dirigeants du cyclisme mondial, Guillaume.
Oui, parce que le calendrier du vélo a été particulièrement chamboulé avec l'arrivée du Covid-19. On a vu toutes nos classiques des mois de mars et avril être reportés tour à tour. Pierre Amiche est avec nous sur ce plateau. Salut Pierre.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
Salut Pierre. Tout cela est encore hypothétique, se fera en fonction de l'évolution de l'épidémie, mais on devrait avoir un calendrier particulièrement serré pour la fin de l'année.
Et oui, comment on fait rentrer 3 litres dans une bouteille de 1 litre 5 ? C'est pas facile, et pourtant c'est à peu près le défi que devrait relever la Fédération Internationale de Cyclisme. Pourquoi ? Parce que l'UCI devait faire rentrer 9 mois et demi de compétition dans 4 mois de calendrier, un marathon couru au rythme d'un sprint. Et c'est une prouesse qui demande forcément des changements majeurs et des sacrifices. Premier changement attendu, évidemment, c'est le Tour de France, qui sera le premier grand tour de l'année avec Pinot, Bardet et tous les autres. Suivront le Tour d'Italie 13 jours plus tard. Et enfin, le Tour d'Espagne. Côté sacrifice, l'UCI a dû consentir à faire chevaucher le Giro et la Vuelta pendant 5 jours, les championnats du monde et le Tour de France pendant une journée. Donc personne ne pourra faire de doublé cette saison, ce sera très 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 dur. Certaines courses sont purement et simplement annulées, c'est le cas notamment des courses suisses avec le Tour de Suisse, le Tour de Romandie et d'autres. Autre changement, le Dauphiné va être ramené à 4 jours à la place d'une semaine, un concentré de pure montagne selon Christian Prudhomme. Paris-Roubaix sera couru lui le 25 octobre, probablement dans des conditions folles. On a l'habitude de le voir un peu plus tôt dans la saison, ça risque d'être dantesque. Côté international, rassurez-vous, les monuments auront bien lieu. Milan-San Remo le 8 août, Liège-Bastogne-Liège le 4 octobre, le Tour des Flandres le 18 et enfin le Tour de Lombardie conclura la saison le 31 octobre. Ce calendrier sera aussi l'occasion d'une nouveauté. On verra plus de femmes sur les vélos, un calendrier plus dense avec notamment un Paris-Roubaix, un Tour des Flandres et un Liège-Bastogne-Liège féminin. En attendant, peut-être un Tour de France 2022. L'UCI a précisé que ces dates reste naturellement subordonnée à la levée jusqu'à la fin de la saison des restrictions instaurées par les autorités compétentes. Globalement, il va falloir être sûr et on n'est pas sûr. Deux observations. La première, c'est la peur que ça suscite, c'est la tentation du dopage. C'est malheureux d'en parler, mais être performant pendant 4 mois avec aucune raison et aucune chance de se louper les courses, ça peut pousser à la bêtise de certains. Mais la seconde observation est bien plus positive. Est-ce que ce nouveau calendrier plus dense, plus concentré, nous privera des courses ennuyeuses et des schémas traditionnels? C'est la porte ouverte à un nouveau monde, celui où le vélo redevient libre et sauvage et où les surprises pourraient être nombreuses cette saison, peut-être du côté d'Arkéa Samsic.
On espère que tes rêves se transformeront en réalité. Merci Pierrot, et on espère surtout qu'on évitera la deuxième vague de manière à ce que toutes ces courses puissent avoir lieu. Messieurs, dames, un mot avant d'accueillir notre invité sur ce programme très ambitieux, trop ambitieux peut-être après une telle interruption. Moi, personnellement, je suis très excité à l'idée de voir toutes ces courses rassemblées en si peu de temps, mais évidemment. Ça n'aura pas que des effets positifs. Oui, espérant évidemment que ça puisse avoir lieu. Votre avis sur...
Moi, je pense qu'on est on reste dans l'hypothétique, donc à partir de là, évidemment que tout ça fait plaisir dans le sens où ça va reprendre, mais voilà, je trouve que c'est très surchargé, je trouve que on met pas en avance trop assez la santé des coureurs, même si on va faire attention, mais voilà, ça me semble totalement utopique, mais bon, je peux me tromper, tu sais, je suis pas d'un éternel pessimisme, mais là, je suis un peu pessimiste.
Parce qu'on le rappelle là. On a les trois grands tours, Marie, je te donne la parole. Tour de France, Tour d'Italie, Tour d'Espagne, du 29 août au 8 novembre.
Oui, on ne pourra pas faire le Tour d'Espagne et le Tour d'Italie en même temps,
puisque les deux chevauchent. Il y a quelque chose de complètement fou, Marie.
Ouais, c'est fou.
Oui, mais je pense que les gens choisiront. On ne fait pas forcément tout. Il va y avoir forcément un dispatch des coureurs et quelque part aussi par rapport aux recommandations Covid-19, la distanciation. Peut-être qu'il vaudra mieux que les coureurs choisissent l'une ou l'autre course et se répartissent. Alors évidemment, on est toujours dans l'hypothétique. C'est-à-dire que là, on a pratiquement toutes les fédérations qui travaillent sur les fédérations et les organisations qui travaillent sur des hypothèses de reprise dans la mesure où tout irait bien. On est bien d'accord.
Ça, bien
c'est, un préétabli, bien sûr. Mais on va en parler tout à l'heure avec le sur la reprise et comment faire pour reprendre progressivement. Ce n'est pas parce qu'on va avoir un calendrier surchargé au mois de septembre et peut-être un peu en prolongement en octobre dans tous les sports que tout le monde va tout faire. Et ça va être aussi le travail des préparateurs physiques, des entraîneurs, des psychologues que d'arriver à conditionner les sportifs et leur dire attention. Hors de question de reprendre à bloc. Tu ne vas pas avoir le niveau que tu aurais eu s'il n'y avait pas eu de confinement. Et il s'agit de reprendre sur un mode un peu plus festif peut-être.
Oui, mais il faut l'espérer
léger.
Ça.
Mais ça, c'est notre travail à tous. C'est le travail de tous les entraîneurs. Et tu sais, enfin, en ce moment, les réunions qu'on peut avoir, je le vois au niveau de l'athlétisme, que ce soit au niveau local, régional ou fédéral, on nous répète ça en boucle. Il va falloir conditionner nos sportifs sur le fait qu'il faut pas se jeter sur la reprise, sinon on va avoir des hôpitaux qui seront pleins, non pas en raison de Covid, mais en raison de grands blessés.
De claquage et compagnie.
De claquage.
Roland, un dernier mot. On va accueillir notre invité dans un instant, Emmanuel Hubert qui attend. Roland,
je vais regarder ça avec beaucoup de curiosité. Quand je dis je vais regarder ça, je vais regarder les choix que l'on peut faire avec un calendrier comme ça. Évidemment qu'on peut pas être à fond sur toutes les courses, je parle même pas des courses qui se chevauchent, mais on va certainement sacrifier certaines courses pour se préparer à la course d'après, et là le choix entre entraîneur, joueur et possibilité et objectif des joueurs, ça va être vraiment très très compliqué, mais très passionnant aussi.
Très bien. On accueille Emmanuel Hubert, patron de la formation Arkéa Samsic, équipe bretonne, donc française, très ambitieuse, qui comprend notamment dans ses rangs le Colombien Quintana, ainsi que les Français Warren Barguil et Nasser Bouhanni, des grands noms du vélo, frustrés évidemment par cette saison interrompue. Bonjour Emmanuel, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Bon, Emmanuel, vous avez vu, j'imagine, et noté avec intérêt le calendrier qui a donc été dévoilé par les responsables de l'UCI. On le répète, évidemment, on n'est pas sûr que cela puisse avoir lieu. Mais juste votre avis là-dessus, est-ce que on n'est pas trop ambitieux? Est-ce que vous pensez que ça va pouvoir rentrer? Alors, Roland disait, oui, il va falloir faire des choix. Il faut savoir quand même qu'il y a souvent, au sein d'une formation, plusieurs équipes. Hein, une équipe qui va faire plutôt les grands tours, d'autres plutôt les classiques. Donc, il y a l'effectif chez Arkéa Samsic pour couvrir toutes ces courses dans un laps de temps si réduit?
Voilà, en fait, il faut tout remettre dans le contexte. En fait, je crois que Roland s'est approché de la vérité. Quand on remet bien les choses en place, aujourd'hui, une équipe, alors après, bien entendu, il faut que toutes les conditions soient requises sur un plan sanitaire, ça, on est tous d'accord, pour que la saison se lance ou se relance. Après, il faut quand même savoir qu'une équipe cycliste comme la nôtre, l'équipe Arkéa Samsic, est composée de 28 coureurs. 28 coureurs, quand on sait que certaines épreuves accueillent que 6 participants par équipe, voire 7, voire 8 pour les grands tours. Donc vous voyez déjà, 28 coureurs divisés par 3.
C'est comme en football, les postes sont triplés.
Oui, mais il n'y a pas 3 leaders. Il n'y a pas 3 leaders quand même.
Si, il y a 3 leaders, j'en parlais.
Moi, je ne suis pas très loin des 3 leaders. J'ai Warren Barguil, j'ai Quintana, j'ai Nasser Bouhanni. Bon, même s'ils sont, les deux premiers sont dans le même registre. Après, Nasser est quand même plus sur un registre sprint. Mais voilà, je pense qu'il y a situation exceptionnelle. Et donc, il faut s'adapter. Et donc, le programme, on va le faire en bonne et due forme. Certes, il y a une concentration de courses qui se chevauchent, d'autres qui ne se chevauchent pas. Après, tout à l'heure, je ne sais plus lequel d'entre vous a dit c'est pas possible de doubler. Si, c'est possible de doubler le Tour de France et la Vuelta. Doubler Tour de France, Giro, c'est impossible. Parce qu'il n'y a qu'une semaine entre les deux, une dizaine de jours, ça reste très...
Et Giro, Vuelta aussi.
Mais Giro, Vuelta, là, c'est mort déjà. Mais par contre, Tour de France, Vuelta... C'est tout à fait entendable. Après, entre deux, il y a quand même.
Est-ce que c'est entendable? C'est entendable. Mais est-ce que c'est entendable? Mais est-ce que c'est raisonnable?
Est-ce que c'est réalisable sur le fond?
Bien sûr. Je pense que sur le plan physio, il y a aucun sujet. Après, on verra bien entendu avec les préparateurs physiques, les médecins, tout cela. On n'est quand même pas des bourreaux, quoi. Je veux dire, les coureurs ont aussi leur sentiment à donner. Et sur le plan médical. Moi, je vois aucune contre-indication aujourd'hui de composer avec deux grands tours.
S'il y a un choix qui est fait, mettons Tour de France et Vuelta, sur les dix coureurs, il y en aura combien à peu près qui feront les 2-5?
Qui peuvent doubler, moi, alors pour l'instant, il faut quand même aussi remettre dans le contexte, et pour l'instant, je fais le Tour de France, mais pas la Vuelta ni le Giro. Donc, pour moi, je ne suis pas très, très concerné encore aujourd'hui. J'espère avoir peut-être l'opportunité, dans les jours qui viennent, peut-être de participer à la Vuelta. Mais toujours en est-il qu'aujourd'hui, c'est non. Mais toujours est-il que si ça se passait comme ça, moi, aujourd'hui, à peu près à doubler des coureurs, il y aurait 2, voire 3 coureurs à doubler réellement le Tour de France et la Vuelta.
Emmanuel, si on prend le cas de Nasser Bouhanni, qui fait partie de votre formation, je sais pas, on peut l'imaginer faire le Tour de France, aller chercher des victoires d'étape, ne pas finir le Tour de France pour ensuite se focaliser sur le Tour d'Italie qui commence le 3 octobre.
Alors moi, déjà d'une, de ma part, en tant que patron, je ne dirai jamais un coureur, tu prends le départ et puis on va voir et puis peut-être que tu vas abandonner. Moi, je pense qu'une course, ça doit aller jusqu'au bout, on doit respecter la course. Après, au-delà de tout ça, il faut quand même savoir que le Tour de France, aujourd'hui, a quand même la typologie du parcours est quand même très difficile cette année. Donc, un sprinter, il faut qu'on y réfléchisse, il faut que ça soit bien mûri. Et puis, les forces en présence. Après, est-ce qu'on va tout jouer, nous aussi, sur nos grimpeurs, Nairo Quintana et Warren Barguil, pour les emmener en haut des cieux sur le classement général? Donc voilà, on est quand même dans un process aujourd'hui où on est quand même plus sur la démarche de valoriser les grimpeurs, sur lesquels le Tour de France s'adapte quand même plus que bien. Ouais, après, il y a quand même un calendrier aujourd'hui, et avec 28 coureurs, pour moi, c'est tout à fait entendable et jouable de faire ce programme. Après, il faut aussi une sélection. C'est-à-dire, c'est pas parce que tout est écrit, le calendrier, qu'on est obligé de tout faire.
Complexité, c'est que ça n'a jamais été fait, en fait. C'est ça, la complexité. C'est-à-dire, vous êtes face à une situation qui n'a jamais été vue.
Bien de faire des choses qui n'ont jamais été faites, non, Denis? Ça change un peu.
Non, mais c'est une question. C'est à la fois une question, je dis. Ouais. C'est une vraie complexité, quand même.
On appelle ça une situation exceptionnelle.
Ah, oui, exactement. Situation exceptionnelle, adaptation exceptionnelle. Je veux dire, voilà. Après, c'est à nous, en tant que taulier, de se dire, les gars, il y a un programme, ok. Maintenant, on va faire quand même ce qu'on est capable. Et ce qu'on n'est pas capable, eh bien, on explique. Et à partir du moment où on explique, je veux dire, que ce soit les organisateurs ou les instances, il n'y aura aucun problème.
Les grands tours, Emmanuel, n'auraient-ils pas dû être raccourcis, comme c'est le cas sur le Dauphiné?
Je ne sais pas. Vous savez, on peut créer toutes les hypothèses. Aujourd'hui, moi, je pense que le Tour de France devait garder ses 3 semaines. Ça, pour moi, c'est quand même incompressible. Et après, peut-être que les autres grands tours, le Tour d'Espagne est amputé de 3 jours. Il dure un peu moins de 3 semaines. Alors 3 jours, c'est toujours 3 jours. Le Giro, lui, par contre, est effectif sur 3 semaines. Ouais. Vous savez, parfois, d'être sur un grand tour, sur un plan physiologique, sur un plan médical, sur un plan santé, vous savez que d'être sur un grand tour, parfois, c'est pas forcément plus exigeant que de sauter de course en course, de prendre un avion, de marcher, de changer d'hôtel. Vous voyez ce que je veux dire, c'est une fois qu'une machine est lancée sur un grand tour, je veux dire, il y a quand même une adaptation qui est quand même plus.
Oui, mais
plus
le facile. Tour de France, c'est quand même costaud. Je veux dire, on sort pas d'un Tour de France indemne.
Oui, mais après, il y a à partir du moment où tout est bien chiadé au départ, c'est-à-dire l'entraînement, et aujourd'hui, qui pourra se nourrir de dire j'ai pas eu le temps de me préparer aujourd'hui. À partir de demain, les coureurs peuvent retourner sur la route. Le Tour de France, c'est dans 2 mois et demi, donc. C'est-à-dire 2 mois et demi de préparation, c'est tout à fait entendable.
Emmanuel, souvent, les coureurs se préparent pour avoir un pic de forme qui peut durer entre 3 semaines, 1 mois et demi. Là, finalement, tout le monde va travailler pour avoir le pic de forme au même moment, parce qu'avec cette saison raccourcie, on peut avoir cette forme-là pendant 2-3 mois. Combien de temps on peut l'avoir, le pic de forme, à votre avis?
Le pic de forme est quand même très, très court. Hein.
Très court,
quand même, c'est quand même un condensé, je veux dire, c'est vraiment hyper, hyper court. Après, ensuite, vous touchez du bout des doigts, c'est que c'est sûr que le Tour de France, ça va être high level. Parce qu'en fait, tout le monde va arriver pimpant, tout le monde va arriver avec énormément de jus, comme on dit dans le jargon cycliste. Et donc, obligatoirement, tous les champions qui vont arriver avec une réserve vraiment bien poussée et bien effective. Après.
La stratégie sera peut-être différente avec certaines étapes choisies qui seront peut-être pas les mêmes d'une autre saison.
Exactement. Aujourd'hui, on va arriver avec des coureurs qui vont vraiment être hyper bien préparés. On a déjà des petites tendances quand même. Vous voyez que l'équipe Ineos commence un petit poil à se marcher dessus. Bernal, il a dit, moi, je vais pas travailler pour Froome, je vais pas travailler pour Geraint Thomas. Donc déjà. Moi, je m'en fiche, hein, ça nous arrange. Hein. S'ils se montent dessus, ça nous arrange. Donc après, quand on regarde tout cela, c'est vrai que les coureurs vont arriver avec énormément de fraîcheur. Et le niveau du départ du Tour de France, le 29 août, eh bien, sera très, très, très relevé. Ils seront tous là. Il n'y aura pas eu de Giro avant. Donc, tout le monde va se focaliser sur le Tour de France.
Et oui, ça va être un Tour de France de folie, voilà. En espérant évidemment qu'il puisse avoir lieu. Juste un petit mot, parce que le Tour de France se déroule habituellement au mois de juillet. On passe des cols à très haute altitude. Deux mois plus tard, ça peut changer les choses. Les conditions climatiques vont être un peu différentes. Et je parle même pas de Paris-Roubaix qui aura lieu au mois d'octobre. Classiques de printemps qui vont être les classiques d'automne cette année. Est-ce que ça peut changer des choses, la saisonnalité, justement, les différences de température, de luminosité, tout ça, Emmanuel?
Alors, je pense qu'au mois de septembre, c'est vrai qu'il y a quand même possiblement moins de chances sur le plan chaleur pour le Tour de France. Je veux dire, ça peut varier de 4-5 degrés. On peut avoir aussi des conditions exceptionnelles sur une journée mais comme on peut le connaître aussi au mois de juillet, hein, on peut se rappeler de journées dantesques sur le Tour de France, mais peut-être qu'au mois de septembre, ça peut être aussi valable. Après, pour ce que vous dites pour Paris-Roubaix, le 25 octobre, eh bien, c'est vrai qu'on est en droit de penser qu'il peut y avoir une journée complètement folle, complètement hors norme, mais il peut y avoir aussi une très belle journée. On sait comme quoi que la saisonnalité est à petit poil décalée, et c'est vrai que parfois des septembre-octobre sont parfois plus beaux que des avril ou mai.
Ouais. Emmanuel, un mot, Nairo Quintana, il adore la chaleur, hein. On rappelle qu'il est colombien. S'il y a moins de chaleur au mois de septembre, ça va pas l'handicaper dans sa quête du Tour de France?
Alors, attention, je crois que Nairo aime bien la chaleur, mais il n'aime pas forcément les très, très grosses chaleurs.
Il faut quand même se rappeler que ces épopées, que ce soit dans le Giro, que ce soit dans la Vuelta ou même le Tour de France, il a toujours été vaillant sous la pluie, il a toujours été vaillant dans des étapes, dans le Mortirolo, dans le Gavia, sous la neige. Je veux dire, il est très performant sous des conditions climatiques aussi extrêmes. Donc peut-être qu'au mois de septembre, on y aura droit sur une étape ou deux de montagne. Maintenant, après, voilà, il fera comme les copains, il s'adaptera au mois de septembre au lieu du mois de juillet.
Oui. Bon, moi personnellement, je suis très excité par ce programme. Évidemment.
Moi aussi,
Emmanuel, j'imagine que tout le monde cycliste attend avec impatience de voir ce que ça peut donner. Évidemment, tout cela.
On a quand même, nous, l'équipe Arkéa Samsung, on a été quand même. Alors, bien évidemment, avec tout le respect que je dois au Covid-19, on a été coupé dans notre élan. Aujourd'hui, on est quand même classé 7e équipe mondiale, première équipe française. Nairo est 2e au classement mondial UCI de tous les coureurs. Je veux dire, nous, on a hâte que la saison reprenne et qu'on reprenne la dynamique qu'on a pu connaître à la fin de Paris-Nice, qu'on a gagné.
Et oui, il faut rappeler que vous avez attaqué la saison tambour battant, et notamment votre leader qui a remporté cette course et qui en a remporté d'autres. Donc c'est vrai que ça vous a un peu coupé les ailes, alors que vous étiez très ambitieux avec un recrutement de premier choix à la fin de la saison dernière. Bon, ben maintenant, il n'y a plus qu'à. On va croiser les doigts, évidemment, pour pas qu'il y ait de deuxième vague et que toutes ces courses puissent se dérouler. Course qu'on suivra, évidemment, sur RMC. Merci beaucoup, Emmanuel Hubert, d'être venu dans Mobilisation Générale, et souhaiter bon en retour sur les routes à vos coureurs qui vont donc pouvoir à nouveau s'entraîner de manière individuelle à partir de demain. Oui, Denis.
Christophe, ce qui est intéressant, c'est que pour lui, le tour va être très performant.
Alors
il y a quelques temps, tu disais, tu étais le premier à dire, on risque d'avoir un tour un peu faiblard.
Non, je disais pas un peu faiblard, je disais qu'il pouvait y avoir des contre-performances de certains, parce que l'état de forme va être difficile à retrouver. D'habitude, le Tour de France, il se prépare dès le début de la saison. Là, il va comme la préparation va finalement commencer demain, même si certains ont pu se préparer, mais sur home trainer, c'est pas du tout la même chose sur la route. On va voir, mais de toute façon, c'est une situation inédite et des choses étonnantes vont avoir lieu.
C'est ça qu'on va regarder avec beaucoup d'attention, parce que ça va sincèrement, les pronostics vont être compliqués, Denis.
En espérant évidemment que ça puisse avoir lieu. 12h29 sur RMC, on va pouvoir peut-être retrouver des courses cyclistes, parce que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de compétitions à se mettre sous la dent, Guillaume.
Il y avait le championnat biélorusse de football qu'on a pu se mettre sous la dent ces dernières semaines, on va vous dire tout cela dans quelques instants avec Loïc Tanzi et nos grandes gueules du sport. À tout de suite sur RMC.
RMC Mobilisation Générale, plus fort ensemble.
Guillaume Laniel, Christophe Cessieux.
Midi et demi sur RMC Mobilisation Générale, la dernière demi-heure. Nous avons déconfiné nos grandes gueules qui vont être complètement déconfinées à partir de la semaine prochaine. Maryse, on va retrouver, on va la voir. Elle a perdu une taille de pantalon, nous dit-elle. On a hâte de voir ça. Denis, plus bronzé que jamais, j'imagine. Il a dû profiter de sa terrasse, de son parc. Et mon cher Roland, affiné comme jamais après 8 semaines de vélo d'appartement. Les temps sont durs. durs, les temps sont durs, la frustration immense pour tous les passionnés de sport que nous sommes depuis 8 semaines, plus une seule compétition et la fin du confinement ne va pas forcément faire beaucoup bouger les choses, tout du moins dans l'immédiat. Du coup, Guillaume, les dingues de sport et autres paris sportifs en sont réduits à suivre des compétitions pour le moins improbables.
Mais oui, si je vous dis Dragoon, Bagarre, Jansan, ça te dit quelque chose?
Non, c'est bah oui,
un truc viking.
Ouais, c'est sûr.
Ouais, on n'est pas loin. Ouais. Non, sont les stars du championnat biélorusse qui ne s'est pas arrêté. On le sait. Mais oui, Denis, tu connais bien Dragoon. Tu nous parleras de son profil dans quelques instants. Loïc Tonzi nous en dit plus ce matin. Salut Loïc.
Salut à tous. Spécialiste du football biélorusse.
Spécialiste.
T'étais mieux dans le championnat kazakh quand même jusqu'à présent.
Oui, le championnat biélorusse, c'est pas si mal. Il faut regarder un peu. Il y a personne dans les stades en ce moment, mais c'est ça se regarde quoi.
Borisov,
c'est
ça fait partie de ce championnat. C'est le championnat en tout cas de Biélorussie, Loïc, qu'il fallait regarder si on était en manque de ballons ces dernières semaines.
Et oui, justement, si vous connaissez le Baté Borisov, le Torpedo Zodino ou le Dynamo Minsk, c'est sûrement que vous êtes devenu un spécialiste de la Vichaya League. C'est le nom du championnat biélorusse. C'est le seul championnat européen qui a continué pendant la crise sanitaire. Et c'est presque une aubaine pour ces clubs car ça leur offre une exposition inédite depuis le 19 mars, la date de la première journée. Les droits télé de la Ligue ont été vendus dans presque 20 pays, c'est une première, alors que le championnat ne se vendait pas du tout à l'étranger depuis le début de son histoire.
Pourquoi c'est incroyable.
Oui, c'est la première fois. Il y a plus de 20 pays qui ont acheté, donc les pays voisins, la Russie, certainement, l'Ukraine, il y a l'Inde.
Il faut vraiment guérir.
Oui, c'est clair. Et la fédération biélorusse a également vu sa chaîne YouTube passer, par exemple, de 13 000 à 27 000 abonnés. On peut voir les matchs du championnat biélorusse sur YouTube si vous êtes en France, par exemple. Certains supporters anglophones aussi se sont même amusés à créer des comptes de supporters, de fans pour suivre un petit peu cette nouvelle passion ensemble. Mais attention, c'est une popularité qui est passagère. Dans les nouveaux contrats télé qui a été signé dans plus de 20 pays, il y a des clauses pour que les diffuseurs arrêtent les contrats une fois que les championnats nationaux des plus grands pays auront repris. On arrêtera de diffuser la Biélorussie dans ces championnats. Et pour les accros auxquels vraiment le championnat de Biélorussie ne suffit pas, il y a une bonne nouvelle. Un deuxième championnat européen reprendra ce week-end, c'est celui des îles Féroé.
Pas mal ça.
Celui-là on l'attend avec impatience. L'explication principale.
C'était pas prête à la conclusion.
Les îles Féroé, il y a quoi? Il y a huit journées.
Est-ce que c'est qu'une bonne chute? Voilà, la chute parfaite de Loïc Tanzi.
Il y a combien d'équipes, Loïc?
En Biélorussie, 16.
Pour les îles.
Il fait en moyenne 2 ans.
Ils sont 8 ou 10. Pas de dire de bêtises, mais 8 ou 10.
Oh, le championnat écossais, c'est pas beaucoup plus.
Vérifie ça de suite.
Juste un mot, Loïc. Est-ce que les gens se passionnent pour ce championnat parce qu'ils sont en manque de foot ou parce qu'ils peuvent parier sur les rencontres? Je pense qu'il y a un peu des deux, non?
Les deux, il y a beaucoup de parieurs qui essayent de faire un peu d'argent sur le championnat biélorusse. Après, il y a beaucoup d'accros de foot qui veulent regarder du foot. Ouais. Et c'est une nouvelle mode.
Tu as regardé un peu ça beaucoup au niveau technique?
Ouais, ça vaut un bas de Ligue 2, début national, quoi. Ouais. Bas de deuxième division, début troisième division en France. Le championnat un petit peu mieux cette année parce qu'ils ont fait passer tous les championnats sur pelouse, toutes les équipes sur pelouse. C'était souvent des synthétiques, donc c'était un peu compliqué pour le niveau de jeu. Et il y a la pelouse depuis le début du championnat. Après, la meilleure équipe, le plus gros budget qui est Dynamo Brest, a quand même 10 millions de budget.
De Dynamo de Brest, c'est pas
Dynamo
Bretagne,
de Brest. Et non, c'est le plus gros budget du championnat biélorusse. Et il y a 10 millions d'euros de budget, ce qui est pas quand même un petit budget. 10 millions d'euros, c'est un budget de Ligue 2 en France, ça permet d'avoir un championnat qui est un niveau quand même un peu élevé.
Denis,
moi je suis allé jeter un œil, mais
ça m'étonne. Pour parier un peu là, non?
Oui, bah évidemment, c'était pas parier.
Ah, t'as pas réussi à te désintoxiquer, toi. Mais
non, j'ai pas parié. Non, franchement, je sais pas parier parce qu'en plus c'est encore plus dur que quand tu paries sur le championnat français. Tu connais personne, mais si tu connais pas un joueur, c'est irregardable.
Et pour toi, c'est peut-être pas plus mal. Hein, c'est peut-être pas plus mal de pas connaître.
Oui,
comme
c'est
ça,
pas plus mal. Non, c'est pas plus mal, mais après, si tu n'étais pas concerné, c'est irregardable. Sincèrement, je comprends, c'est génial pour eux. Pour moi, pour le football biélorusse, je trouve ça génial parce que ça a été vu, ça a été exposé, comme tu l'as dit, Loïc. Mais après, sincèrement, moi, je ne me retrouve pas et puis je passe à autre chose. Ce n'est pas possible.
Roland, t'as regardé un peu de championnat biélorusse? Non, pas du
alors,
tout.
Roland,
non, pas du tout. Ouais. Par contre, qu'est-ce que c'est l'explication qu'ils ont pu continuer, qu'ils se sont jamais arrêtés? C'est quoi?
C'est le gouvernement de ne pas confiner les gens et de laisser les compétitions sportives se poursuivre. Il y a William Acambray hein, qui le handball français qui continue également son championnat en hand là-bas.
Ouais. Maryse, comment tu fais toi pour étancher ta soif d'événements sportifs? Est-ce que tu es complètement désintoxiquée ou est-ce que tu regardes
les...
Je
patiente, comme tout le monde.
Ouais.
Je patiente. Non, moi je me suis jetée sur la lecture. Je suis plus lecture. C'est plus mon média que la télévision. Mes deux médias préférés, c'est la lecture et la radio. Donc bon, il y a beaucoup de retransmissions en ligne. On peut retrouver un tas de reportages, regarder des courses, etc. Mais moi, je me suis plutôt plongée dans l'histoire, donc dans les bouquins. Voilà, les bouquins sur le sport.
Eh ben oui, tu as bien raison. Roland,
ça me régale.
Jesse Owens, non ? J'ai quand même...
Celui-là, je le connais par cœur.
Voilà. J'ai quand même regardé, pas seulement pour passer le temps, par curiosité, certains matchs d'il y a quelques années, notamment il y a même une vingtaine d'années, pour pouvoir, dans nos débats, des fois, ne pas penser que tout est parfait aujourd'hui. Dans la composition qu'on pouvait faire. Et j'étais agréablement surpris par certains matchs et par le rythme de certains matchs où je pensais quand même que c'était pas ce niveau-là.
Plus lent. Tu voulais dire que c'est plus lent.
Bon, alors évidemment que ça allait un peu, mais dans certains matchs que j'ai pu voir, j'étais surpris par le rythme. Hein.
Et je dirais même, Roland, je suis allé voir comme toi, mais techniquement, moi j'étais surpris. Je trouvais que techniquement, il y avait des joueurs très forts pour l'époque. Hein. Non, mais je veux dire, c'est gay, ça pallie pas par rapport à aujourd'hui. Il y a des joueurs qui ont une technique moindre que celle qu'avaient certains joueurs de l'époque.
Hein. Ouais. Je me suis amusé à regarder aussi nos matchs de la Coupe du Monde.
Même avis.
Il y avait de bonnes choses. Bon, mais il n'y avait pas que de bonnes choses.
Ça n'a pas changé, ça. Ça reste immuable. Maryse, Denis, Roland, si vous aviez un événement, un match, une compétition que vous voudriez voir en priorité, là, si tout était permis à partir de demain, quel serait cet événement, quel serait ce match ou cette compétition? Maryse, on va commencer avec toi. Une course de champion, 100 mètres, le concours olympique.
Ça a été
olympique.
Annulé, donc moi, c'est les Jeux olympiques, évidemment.
Ouais, c'est les Jeux olympiques qui vont le plus manquer.
Ça va manquer, c'est bon, c'est reporté. Donc, alors je dirais même, tu vois, je passerai même les Jeux olympiques en deuxième, puisqu'ils sont reportés, donc nous aurons les Jeux olympiques l'année prochaine, mais j'ai du mal à faire mon deuil des championnats d'Europe d'athlétisme qui avaient lieu à Paris, quoi. À la fin de l'été, ça devait être un événement fantastique chez nous, et là, pour le coup, ceux-là sont annulés définitivement. Ça me rend triste un peu.
Il n'y a aucun événement d'athlét programmé pour la...
Si, mardi, à la course contre le cancer du poumon de mon club.
Ah, d'accord.
Le meeting de Théo, vous pouvez vous inscrire sur Instagram. On court, c'est un 600 mètres. Oh,
c'est un contre-la-montre alors, c'est petit, pas en peloton.
Hein. En 600 mètres, c'est chacun chez soi. Tu sais, tu sors chez toi. Moi, ceux qui sont inscrits, je leur envoie un dossard. Ils ont leur dossard virtuel. Ouais. Et ils font un 1000 mètres ou un 600 mètres en dehors de chez eux pour la lutte contre le cancer du poumon.
On peut le faire en descente, par exemple pour,
Tu le fais comme tu veux. Tu peux le faire en roulant si tu veux.
Parce que si tu fais un 600 mètres en montée, c'est pas la même chose qu'en descente, quand même.
Ben, chacun fait comme il veut. Celui, par exemple, le sprinter qui a envie de se faire une séance, il va peut-être se faire 6 fois 100 mètres en côte. Ouais. Tu vois, pourquoi pas? Pourquoi pas?
Je sais pas si on va faire ça.
Denis,
qu'est-ce que tu as envie de voir tout de suite demain?
Je vais rester dans mon sport. Une finale du champion de France de rugby, c'est quand même un événement incroyable parce que c'est une fête nationale. Il y a beaucoup de gens heureux, et que tu sois perdant ou gagnant, ça représente pour nous tout un symbole. Et voilà, j'aimerais bien le voir, mais on le verra pas.
Évidemment. Et oui, parce que déjà on connaît pas les qualifiés pour la finale, il y en a pas. Ouais. Hein, donc évidemment. C'est compliqué. Roland, ton avis à toi.
J'attendais ça avec impatience parce que bon, c'est une compétition que je trouve extraordinaire, moi qui m'intéresse encore plus que la Coupe du Monde. J'attendais ça avec impatience et inquiétude aussi par rapport au calendrier, par rapport à la forme de 70% de nos joueurs. Et malheureusement, le virus est arrivé. On verra ça dans un an.
On parlait du championnat biélorusse. On parlait du championnat biélorusse, quelque chose d'un peu inattendu qu'on a découvert donc pendant ces semaines. Il y a un truc qui cartonne également, me souffle Pierre Amiche. Ça fait pas mal énormément de vues, des millions de vues sur YouTube. C'est championnat de billes. Je sais pas si ça peut donner envie de voir ça.
Comme la F1 un peu.
Ça fait des cartons aux Pays-Bas où ils reproduisent Ils reproduisent des circuits de Formule 1. Ah oui. Voilà, et ils ont fait des parcours avec.
On a tous joué au billes quand on était petits, à faire des parcours incroyables.
C'est hyper bien à voir.
On est un peu en mode nostalgie en ce moment avec les docus sur Michael Jordan.
À certains moments,
c'est notre enfance.
D'un certain moment, c'était même une insulte. Oh, joueur de billes.
est-ce que tu jouais d'un côté, tu touches ta bille, ça veut dire Roland, que t'es fort quand même, hein,
ouais. Roland, est-ce que tu jouais un franc à la bille, non? Tu jouais? Non, mais par contre, on avait la grosse bille qu'on appelait
le boulard.
Il est petite, et je peux te dire sincèrement que là, j'étais assez adroit. Et après, on tenait un petit peu le truc et on mettait le gros, comme tu dis le nom du bungalow, le bigalow.
Bigaro.
Le calot.
Voilà.
Non. Donc. Bigaro.
Le galop, on disait.
Bon, ça dépend de là où tu as été.
À la région, ça dépend de la région.
Tant que tu n'attrapais pas le truc, mais tu perdais les billes que tu jetais. Donc c'était peut-être mieux de tenir le galop et que les autres tirent que le contraire. Mais bon, il fallait faire les deux. Et là, sincèrement, à la maison chez moi, j'avais beaucoup, beaucoup de billes.
En tout cas, pour conclure, sachez que la Formule E a signé un partenariat avec cette chaîne qui diffuse donc ses compétitions de billes. Voilà, ça méritait d'être dit ce matin.
D'accord, on peut faire des billes électriques maintenant. Donc, un peu. Qu'est-ce qui vous manque, vous, Loïc et Guillaume? Qu'est-ce qui vous manque le plus? Qu'est-ce que vous avez envie de voir là?
Très simplement, demain, la Ligue 1.
La Ligue 1. Un bon
match de Ligue 1, c'est très bien.
Ouais, un bon match du dimanche soir, ouais, voilà, devant sa télé.
C'est top. C'est tout ce qui
manque. Même dans un stade, encore mieux.
T'as pas des bons matchs tout le temps non plus.
Mais ça va quand même. Même les mauvais matchs. Quand même.
Non, deux choses. Ouais. Roland Garros, même si ça va être reporté, parce que dans quelles conditions on va le voir. Et Marie en parlait, mais pour moi, une finale du 100 mètres aux Jeux Olympiques, c'est embêtant d'attendre encore un an et demi, parce que c'est l'un des trucs moi que j'attends le plus, que je rate absolument pas. Donc, ça va être dur.
Tyson Moscato.
Oui, tu voulais pas voir de Tyson hier. Voilà, t'as changé d'avis.
Avec Moscato.
Vincent est un peu plus âgé que Tyson. Je sais pas, il est pas loin.
Non, je crois qu'ils ont le même âge. Il y a 53, Tyson. Je crois que Vincent a 55.
Ouais, bien sûr. Ok, très bien. Bah, on verra si on peut assister à tous ces événements dans les semaines à venir. Ce sera pas pour demain, on l'a bien compris. Mais peut-être pour après-demain ou un peu plus tard. 12h43 sur AMC. Pour espérer disputer ces compétitions, il va falloir maintenant reprendre le chemin de l'entraînement, se réathlétiser. On en parle dans un instant avec notre prochain invité, Guillaume.
Oui, c'est vrai que c'est un problème pour une question qui se pose pour pas mal de multitudes de sportifs. Et avec nous dans quelques instants, Emmanuel Lacroix, préparateur physique à l'ASVEL. Midi 43, on se retrouve dans quelques instants sur RMC.
RMC Mobilisation Générale.
Plus fort ensemble.
RMC Mobilisation Générale, plus fort ensemble.
Guillaume Laniel, Christophe Cessieux.
On en parlait tout à l'heure, les coureurs cyclistes vont pouvoir reprendre leur entraînement dès demain sur les routes, cela de manière individuelle. Mais qu'en est-il des autres sportifs professionnels? La réathlétisation va sans doute s'avérer indispensable avant de reprendre le chemin de la compétition. Combien de temps ça va prendre? Quels sont les risques encourus par des athlètes privés de véritables entraînements? On va, Guillaume, dans un instant poser toutes ces questions à notre dernier invité du jour. Il est préparateur physique.
Oui, notre dernier invité, effectivement, Emmanuel Lacroix. On va parler bien de tout ce qui concerne la préparation physique dans quelques instants à l'ASVEL, parce qu'évidemment, eh bien, se pose la question maintenant de remettre dans la meilleure forme possible, eh bien, tous les basketteurs du club présidé, on le rappelle, par Tony Parker. On l'accueille, effectivement. Emmanuel Lacroix qui est avec nous, préparateur physique à l'ASVEL. Bonjour Emmanuel.
Oui, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Merci de nous accorder ces quelques minutes. Comment se sont déroulés, Emmanuel, ces deux derniers mois pour vos joueurs, privés d'entraînement collectif? Est-ce qu'ils ont pu individuellement se maintenir en forme?
Oui, tout à fait. On a organisé ce qu'on appelle le home training, hein, donc littéralement en français l'entraînement à la maison, avec soit des prêts de matériel, soit des achats de matériel de leur propre fait. Et ensuite, des programmes adaptés sur ce qui était envisageable. Donc chacun, dans ses possibilités, a continué un entretien physique assez particulier du fait des circonstances.
Bon, ça, c'est la bonne nouvelle. Vous n'avez pas constaté, on en parlait tout à l'heure dans l'émission avec une nutritionniste, de prise de poids chez la plupart des joueurs, Emmanuel?
Non, sur les retours que j'ai, moi, c'est même plutôt l'inverse. C'est une perte de poids. Donc c'est un peu mon inquiétude. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une perte de poids. Est-ce qu'elle est liée à une perte de masse musculaire, liée à un arrêt de l'activité et des entraînements quotidiens et de notre rythme? Nous, on avait quand même 3 matchs hebdomadaires avant l'arrêt. Ou est-ce que c'est simplement le fait d'un entraînement particulier, d'une nutrition un petit peu adaptée et amoindrie qui fait perdre un peu de masse grasse? Donc ça sera la question à répondre quand j'aurai eu la chance de les revoir autrement ouais. qu'en vidéo.
Est-ce qu'on va faire passer des tests pour connaître l'état de forme du moment?
Évidemment. Ouais, on va faire quelques tests, quelques diagnostics fonctionnels, parce que nous, notre reprise, elle va être un peu adaptée. C'est-à-dire que c'est pas une reprise pour l'instant. On est toujours en état de chômage partiel, hein, donc ça va être vraiment une reprise progressive. On va attaquer une période en juin d'entraînement, on va dire un petit peu plus normaux. Et là, on aura une batterie de tests médicaux qui seront adaptés évidemment à pas mal de choses liées au virus. Et on poussera certainement aussi les choses par rapport à l'aspect fonctionnel.
Le fait justement d'être soumis au chômage partiel fait qu'il n'est pas, enfin, on peut refuser de s'entraîner. Est-ce que vous avez rencontré ce problème où tous les joueurs de l'ASVEL sont consciencieux, ont une conscience professionnelle et ont continué de s'entraîner comme si de rien n'était pendant cette crise, Emmanuel?
Globalement, j'ai eu aucun problème. Vraiment, d'accord. On a des garçons qui sont plutôt extrêmement sérieux. Et qui surtout sont certainement très très en manque aussi d'activité physique. Donc ils ont été assez demandeurs et ils se sont mis au travail sans trop de problèmes. Parce que c'est vrai que c'est une vraie problématique administrative.
Et oui.
Mais on n'a pas eu ce souci, en tout cas moralement parlant.
Bon, un entraînement individuel est évidemment très différent d'un entraînement collectif.
Ouais.
On perd ses repères quand on ne joue pas avec les autres, quand on se fait pas de passes, qu'on travaille pas, je sais pas, tactiquement sur un terrain. Est-ce que ça se perd ça? Et est-ce que ça peut se récupérer facilement, plus facilement que la forme physique?
Ouais, ça se perd, c'est une évidence, notamment sur tous les aspects qui vont être de prise d'information, d'avoir des lectures périphériques de la balle, des partenaires, etc. Donc ça, c'est des choses qui se perdent, mais c'est des choses finalement qu'on peut retrouver sur des coupures un petit peu plus grandes quand on est, on va dire, arrêté pour des vacances ou pour une blessure un peu longue durée. Donc ça se retrouvera par le travail collectif et par le retour avec le ballon et des prises d'information spécifiques. Voilà, ce qui va être le plus inquiétant surtout, c'est le manque d'actions explosives spécifiques qui ont été donc complètement coupées pendant 2 mois.
Mais le calendrier, le calendrier à venir, c'est-à-dire le pourquoi on se met en forme, c'est justement par rapport à un calendrier. Nous, par exemple, en football, on avait un calendrier qui nous attendait, si le football avait repris,
ouais.
qui était un match tous les 3 jours. Au basket,
ouais,
là, il y a le problème de retrouver la forme, mais le calendrier, c'est le calendrier habituel.
Oui. Pour l'instant, c'est le calendrier actuel. Pour l'instant, on n'a pas de calendrier, en fait. Nous, on est la seule équipe française encore, entre guillemets, engagée en Coupe d'Europe, parce que nous, notre Coupe d'Europe, l'Euroleague, n'a pas encore acté la fin de la compétition. Donc, il est probable qu'ils nous fassent venir, c'est dans leurs idées, dans une ville européenne de leur choix, sur un tournoi d'un mois pour finaliser la compétition. Donc, ça serait le mois de juillet. Donc, c'est peut-être la seule échéance qu'on peut avoir. Mais bon, elle est quand même très, très incertaine. Et ensuite, on n'a toujours pas de date de reprise, en fait. Nous, on est parti du principe d'accord. de se dire, les joueurs, on va les remettre à niveau le maximum avant de les faire couper pour des vacances classiques, on l'espère, pour que les mecs puissent quand même souffler sur l'aspect mental et de reprendre sur une pré-saison aussi classique mi-août. Voilà, c'est ce qu'on espère dans notre esprit.
Maryse, je crois, une question pour Emmanuel.
Oui, Emmanuel, nous on a beaucoup de recommandations de la fédération de presque freiner nos athlètes et leur faire comprendre que même s'il y a une reprise progressive, il faut surtout pas qu'ils s'attendent à être dans la forme olympique dans les semaines qui suivent. Est-ce que vous avez ce type de recommandation et est-ce que
exactement.
La reprise va être un petit peu comme une reprise de septembre finalement?
Ouais, exactement, c'est mon cheval de bataille depuis 2-3 jours, je multiplie les messages, je multiplie les lectures scientifiques, on va dire, résumées pour les joueurs, même les stats, hein, parce que par exemple, là, on a des stats qui sortent sur les reprises d'entraînement de foot avec déjà des blessures, des lésions musculaires importantes sur le deuxième entraînement. Donc évidemment, il faut qu'ils comprennent que la reprise, elle est particulière, qu'on est vraiment dans un reconditionnement général extrêmement progressif. C'est pour ça qu'on veut interdire dans un premier temps la pratique du basket, on va dire, intense, c'est-à-dire qu'on veut limiter les impulsions, limiter le dynamisme et les actions intenses et être vraiment dans un reconditionnement très très progressif. Et c'est vrai que c'est difficile à faire entendre aux joueurs qui, en s'entraînant 2 mois chez eux, ils ont quand même l'impression d'être très affûtés et très en forme.
Oui, c'est ça le problème.
Ouais, exactement. Mais il y a cette particularité du système musculo-tendineux qui n'a pas eu la vitesse de contraction et les, on va dire, les intensités, les chocs habituels. Et ça, ce sont des choses qui sont importantes.
Le risque de blessure est réel, alors.
Le risque de blessure est réel, ouais, tout à fait. Il y a une étude qui est sortie sur le lockout après les deux mois d'arrêt du lockout aux États-Unis en 2011. Il y a eu 12 ruptures du tendon d'Achille sur la reprise, sur la pré-saison. Oh, la parce qu'habituellement, ils ont 3 à 4, je crois, en saison. Ce sont des choses quand même qui sont significatives. Donc il faut prendre en considération ces effets.
Ça veut dire, Emmanuel, quand vous allez retrouver vos joueurs, vous allez avoir un rôle primordial. Vous allez peut-être d'ailleurs modifier votre manière de travailler avec vos joueurs quand vous allez les récupérer.
Ouais, complètement. Bah déjà, le contexte fait, ça va être très très différent. C'est-à-dire qu'on est en train de réfléchir à organiser des zones individuelles de travail en salle, donc avec du matériel particulier pour qu'il n'y ait pas d'échange. Donc déjà, ça va changer vraiment la pédagogie, on va dire, d'organisation de la séance. Et ensuite, évidemment, que j'aurai un rôle différent parce qu'habituellement, je suis un peu celui qui va pousser. Et là, j'ai l'impression que je vais plutôt être le mec qui va retenir.
Eh oui.
Donc ça va être quelque chose de différent, c'est nouveau. On va s'adapter.
On a appris, par exemple, en football hier, que Samuel Umtiti, le défenseur du FC Barcelone, qui avait repris l'entraînement avant-hier, eh bien, s'est blessé dès le lendemain, une blessure sérieuse au mollet. Voilà. Est-ce que les joueurs un peu plus âgés, dirons-nous, qui abordent la trentaine ou l'ont dépassé, sont des sujets un peu plus à risque? Non pas pour le Covid, mais pour les blessures, Emmanuel.
Ouais, complètement. Hein. On sait que plus on se rapproche, on va dire, d'un âge, on va dire, avancé pour un sportif de haut niveau, moins il faut s'arrêter et plus il faut avoir un entraînement régulier. Peut-être moins intense, mais un entraînement plus régulier. Et là, aujourd'hui, les joueurs, ils ont pas pu avoir leur entraînement régulier, quoi.
Et puis, nous, on a un entraîneur d'athlétisme, plutôt un conseiller technique, qui a fait une étude en mettant un podomètre, enfin, comment on appelle ça, pour mesurer les pas sur
un de ses athlètes. Ouais, c'est
voilà, c'est ça, sur une de ses athlètes, pour comparer un petit peu l'activité pendant une journée normale où elle va en cours, elle va travailler, etc., plus l'entraînement, et l'activité en confinement. Et c'est une jeune femme qui avait déjà un peu de télétravail parce qu'elle se concentrait sur l'athlétisme, donc il a aussi comparé la période où elle est en télétravail et la période de confinement. C'était hallucinant, c'est-à-dire qu'il est passé de 2,7 km à peu près de pas marcher, simplement de pas, on parle pas de l'entraînement, hein, de pas dans la maison, sur ses trajets, etc., à 300 mètres en confinement. C'est-à-dire que même en faisant la fameuse heure de abdos, dorsaux, yoga, on a tous fait des tonnes de trucs, malgré tout, la station debout, c'est-à-dire le squelette, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les liaisons, les muscles, les tendons, tout ça, ça n'a pas travaillé. Et ça, il faut absolument que nos athlètes le comprennent.
Exactement, c'est extrêmement intéressant parce que ça veut dire que les muscles intrinsèques du pied, qui sont des muscles qui nous servent sur la marche, ils vont être démusclés, désentraînés. Et ça, c'est des risques liés à la peau névro, c'est des risques liés à l'équilibre. Moi, j'ai conseillé aux athlètes de faire toute leur séance pieds nus chez eux, évidemment, pour avoir beaucoup plus de travail au niveau de la force des pieds. Mais évidemment, c'est quelque chose qui ne peut pas être évité, qu'il faudra vraiment prendre en considération sur les 3 à 4 premières semaines.
Ouais. Denis, juste une question. Bon, toi, tu as arrêté l'entraînement depuis très longtemps, mais les rugbyman, en revanche, vont reprendre. Et il paraît qu'en rugby, la préparation, la réathlétisation est encore plus longue que pour les autres sports et que ça va nécessiter, c'est ce que disent certains experts, 13 semaines pour se réathlétiser. Ça paraît énorme.
Oui, réathlétiser. Après, tu peux, au bout d'un mois, quand même, tu arrives à te remettre en forme. Mais c'est vrai, pour la réathlétisation, ça prend 13 semaines, ça me semble beaucoup. J'en ai parlé cette semaine avec Thomas Lombard, et ouais, un mois et demi, 2 mois, pour être vraiment prêt au combat et vraiment prêt à faire du sport de haut niveau. Parce que, voilà, en rugby, plus que dans les autres sports, c'est quand même un sport de combat avant tout. Hein.
Ouais, c'est un rapport qui a été demandé et qui a été livré par la commission médicale de la Ligue nationale de rugby. Emmanuel, ça vous surprend, ça, 13 semaines pour les rugbyman? Combien de temps pour les basketteurs?
Parce que, comme le dit Denis, le rugby est quand même un sport où la dimension athlétique, physique est énorme. Donc c'est évident qu'ils prennent des précautions encore plus que pour d'autres activités. Ouais.
Merci beaucoup Emmanuel, bon courage pour
merci
la suite.
Merci Emmanuel.
Hâte de reprendre le boulot, j'imagine, et hâte de reprendre le chemin des salles et des parquets de basket pour la reprise, pourquoi pas, de l'Euroleague, effectivement, et la fin de saison. Voilà pour cette émission, on va conclure là. Juste l'occasion pour moi de vous rappeler qu'il y aura donc un nouveau programme à partir de la semaine prochaine, puisque là, la mobilisation générale va s'arrêter. Donc, dès la semaine prochaine, entre 11h et 13h, les grandes gueules seront là. Hein. J'espère qu'on vous verra en studio. Vous allez sortir de chez vous, de vos douillets appartements, messieurs, dames. Je voudrais bien voir.
Non, moi, pas tout de suite.
Pas tout de suite. Ah, il y en a des pistolets. Voilà.
Les confinés.
Des pistonnés confinés. Et puis, il y en a d'autres qui vont revenir parce qu'il vaudra mieux être là entre 10h et 11h la semaine prochaine avec ce nouveau jeu donc qu'on va vous proposer.
Ah, il me tarde. Il me tarde.
Ah, ouais. Le RMC Sport Game.
Mais qu'est-ce qu'il va falloir réviser? Est-ce qu'on a déjà
il faut réviser ta culture générale. Et là, c'est mieux que le Kikadi parce que le Kikadi, c'est de la culture instantanée, immédiate.
Ah,
là,
non,
ça va.
Tu sais qu'on a de tout dans le Kikadi. Oui, on a même de la philo des fois.
Oui, c'est sûr. Mais là, en tout cas, ce sera basé sur la culture sportive, hein, mais ça peut toucher toutes les disciplines.
Moi, je miserai sur Denis et Maryse.
Denis et Maryse, c'est parce qu'ils sont là que tu dis ça.
Ah, évidemment, mais c'est mes collègues d'aujourd'hui.
Merci Roland.
Donc je vous explique en gros de comment ça va se passer. Il y aura 4 équipes de 2, un auditeur associé à chaque fois avec un consultant ou un journaliste RMC. Il y aura plusieurs phases dans le jeu. Il y aura la phase de poule qui définira l'ordre de classement des équipes. On aura ensuite les demi-finales croisées et les deux équipes qui auront remporté ces demi-finales se retrouveront dans la troisième partie de l'émission pour la finale, pour répondre donc à des questions de rapidité, des quiz, vous aurez aussi des quiz sonores, il y aura beaucoup de mauvaise foi et pas mal d'érudition, on l'espère. Ce sera donc tous les week-ends sur RMC et ce sera évidemment pour vous réveiller. Il faudra être réveillé à 10h, il faudra être plein badin.
Désolé, c'était pas dans le bon ordre. Maryse et Denis.
Maryse et Denis.
Oui, c'est ta galanterie ça, Roland.
Ça m'a échappé. Ah, oui.
Très bien, rendez-vous donc samedi prochain, 10h, 11h. Denis Charvet, Stephen Brun, Marie Martineau et Nicolas Paolorsi seront donc les 4 premiers candidats, consultants, journalistes à se frotter à ce jeu. On vous attend donc la semaine prochaine et vous pouvez vous inscrire d'ores et déjà au 32-16. Merci Maryse, Roland et Denis.
Salut.
On se retrouve très bientôt évidemment. Merci également à toi Guillaume.
Merci Christophe.
De m'avoir accompagné ce week-end. Dans un instant, la boîte à souvenirs de J.C. Drouet. Avec qui sera-t-il? Eh bien, avec Eric Dimeco. On va voir s'il parvient à lui tirer une petite larme. Et puis tout à l'heure, le RMC Sport Show Revival avec les deux Nico Jamin et Ben Soussan. Le sujet du jour, le retour sur le grand événement, ce sera le 4 x 100 mètres des Jeux de Londres et l'équipe de France, évidemment. Voilà, vous avez un beau programme qui vous attend. On se retrouve le week-end prochain. Bonne semaine et n'oubliez pas votre masque demain. Ciao, ciao.
RMC Mobilisation Générale.
Plus fort ensemble.